Grandir ensemble.
Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol n'est plus au pouvoir. Il a été destitué ce matin par la Cour constitutionnelle, 4 mois après sa tentative d'imposer la loi martiale. Une décision qui entraîne une élection présidentielle dans les 60 jours. Explosion de joie à Séoul. Nous retrouverons Camille Ruiz, qui était avec les manifestants dans la capitale sud-coréenne. Les conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump. Un exemple concret avec Volvo Cars, qui est contraint de s'adapter à cette décision. À Stockholm, Ottilia Ferré nous détaillera les répercussions pour le groupe automobile suédois qui va délocaliser une partie de sa production outre-Atlantique. Aux États-Unis, une enquête ouverte pour le Pentagone après la faille de sécurité concernant des frappes américaines sur les Houthis au Yémen. Un journaliste du magazine The Atlantic avait été intégré par erreur à un groupe de discussion sur l'application chiffrée Signal. Nous retrouverons Guillaume Nodin à Washington. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle confirme donc à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol. Il est chassé du pouvoir immédiatement. Yoon avait tenté il y a 4 mois d'imposer la loi martiale. La Cour estime que les actions de Yoon avaient violé les principes fondamentaux de l'état de droit et de la gouvernance démocratique. Notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz, s'est rendue au cœur de la capitale, sur la place principale auprès des manifestants pro-démocratie, qui ont explosé de joie à l'annonce de cette décision très attendue.
Des cris, des applaudissements et même une fanfare. Certains manifestants se sont effondrés en pleurs de joie. D'autres se sont pris dans les bras. Derrière ses lunettes de soleil, Cho Byun-ho, 56 ans, essuie une larme discrète.
Je suis venu ici plein d'espoir et j'ai été tellement touché que j'ai un peu pleuré. Je suis ravi et très soulagé. C'était une décision évidente et elle a sauvé notre pays de la crise.
Lee Eun-soo, 25 ans, a déjà prévu de fêter la nouvelle.
Je vais aller manger avec mes amis dans un bon restaurant. Nous nous sommes beaucoup mobilisés, alors nous allons en parler et nous féliciter de nos efforts.
Le soulagement se lit sur beaucoup de visages. Han Eun-young, 57 ans, a du mal à contenir sa joie.
J'ai du mal à réaliser. Je suis vraiment très heureuse. Enfin, nous pouvons retrouver nos vies d'avant et continuer à vivre en démocratie.
La comédienne pense déjà à l'élection présidentielle qui doit se tenir dans les 2 prochains mois.
Lee Jae-myung est le seul à se soucier vraiment des gens. Il fait vraiment bien son travail. Ce doit être lui.
Le rival de Yoon Suk-yeol par grand favori. La date exacte de l'élection doit être annoncée dans les 10 prochains jours. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
L'onde de choc provoquée par l'annonce de Donald Trump de droits de douane massifs pour les partenaires commerciaux des États-Unis continue de parcourir la planète, à commencer par les marchés asiatiques toujours sonnés. Les bourses européennes aussi ouvrent à la baisse. Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis cherchent la parade face au coup de massue infligé par Donald Trump. Il faut dire que tout le monde a été stupéfait par l'ampleur de l'offensive américaine qui rebat les cartes du commerce mondial. Les principaux partenaires des États-Unis se sont globalement abstenus de jeter de l'huile sur le feu. Face à une décision américaine grave et infondée, le président français Emmanuel Macron a esquissé une riposte graduée passant par l'unité des Européens et la suspension temporaire des investissements aux États-Unis. Ce matin, le ministre de l'économie français, Éric Lombard, appelle les entreprises françaises à faire preuve de patriotisme. Il est clair, dit-il, que si une grande entreprise française acceptait d'ouvrir une usine aux États-Unis, ce serait donner un point aux Américains. Et c'est ce que va faire Volvo Cars, qui va délocaliser une partie de sa production outre-Atlantique. L'entreprise suédoise est contrainte de s'adapter à ses droits de douane de 25% imposés par Donald Trump sur les importations de voitures aux États-Unis. Même si Volvo se porte plutôt bien comparé à d'autres constructeurs, c'est un coup dur. À Stockholm, Ottilia Ferré.
La seule chose à faire est de suivre la loi de Darwin et de s'adapter plus rapidement que les concurrents. C'est ce qu'a déclaré ce 3 avril Håkan Samuelsson, PDG de Volvo Cars, qui a aussi annoncé sa stratégie, à savoir réduire les coûts en augmentant les volumes de production dans l'usine Volvo située à Charleston, aux États-Unis. Deux modèles y sont déjà produits et un troisième devrait bientôt y être fabriqué.
Volvo est présent aux États-Unis depuis 1957 et notre intention et d'y rester. C'est un marché très important pour Volvo.
Une voiture Volvo sur 5 est vendue sur le marché américain et les deux modèles qui y sont le plus vendus sont fabriqués dans la ville suédoise de Göteborg. Le constructeur est l'un des plus grands employeurs en Suède. Beaucoup s'inquiètent donc pour leur emploi, mais auprès des médias suédois, le directeur de Volvo a voulu se montrer rassurant.
Nous prévoyons que l'entreprise se développera et gagnera des parts de marché dans cette transformation vers l'électrique. Je ne vois donc pas un avenir où nous devrons réduire nos activités à Göteborg.
Il a aussi promis d'établir un programme clair d'ici un mois concernant la production et la manière dont Volvo va désormais vendre ses voitures. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Du remue-ménage dans le milieu de la sécurité nationale et de la défense de l'administration Trump aux États-Unis, l'affaire Signal, cette messagerie utilisée pour parler de plans d'attaque au Yémen par un groupe de responsables, entraîne une enquête au Pentagone. RFI Washington, Guillaume Nodin.
L'inspecteur général du ministère de la Défense l'a fait savoir directement au ministre Pete Hegseth. Il va enquêter pour savoir jusqu'à quel point lui et d'autres hauts responsables s'appuient sur une messagerie commerciale plutôt que sur les outils cryptés officiels pour discuter de sujets hautement sensible, incluant au passage accidentellement un journaliste. Le groupe avait été créé à la mi-mars par le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Il vit des moments assez difficiles. Selon des informations de presse, il a créé une vingtaine de groupes du genre et il a aussi utilisé un courriel privé pour discuter d'affaires qui concernent le gouvernement. De plus, il a dû se séparer de plusieurs membres de son équipe cette semaine. Ce n'est apparemment pas une conséquence directe de l'affaire, mais plutôt une question de loyauté, une valeur cardinale pour Donald Trump. La décision est arrivée au lendemain d'une visite à la Maison-Blanche de la militante d'extrême droite et volontiers complotiste Laura Loomer. Selon plusieurs sources, elle s'est attaquée à une dizaine de personnes de l'équipe de sécurité nationale devant Donald Trump et Mike Waltz, qui a tenté de défendre ses hommes, manifestement en vain, ce qui peut être une indication de la fragilité de sa position. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Les dirigeants de l'Union européenne et des 5 États d'Asie centrale se réunissent à Samarcande, en Ouzbékistan. Il s'agit du tout premier sommet de ce genre. Au menu, les renforcements des liens politiques et économiques. Les deux régions du monde cherchent à approfondir leur coopération dans un paysage mondial en mutation. Les discussions porteront principalement sur des enjeux de connectivité, la sécurité et la transition énergétique, alors que l'Union européenne cherche surtout à diversifier ses approvisionnements en minerais essentiels. En 2019, l'Union européenne a adopté une nouvelle stratégie pour l'Asie centrale, plus pragmatique, comme l'explique Michael Leviston, doctorant au Centre de recherche Europe-Eurasie à l'INALCO.
Ce qu'on observe depuis un petit moment, c'est une volonté à la fois de développer les liens économiques sur tout un tas de secteurs, en même temps de faire preuve d'un petit peu plus de pragmatisme que par le passé, parce que c'est vrai que l'Union européenne était un petit peu donneuse de leçons à expliquer qu'il fallait démocratiser des régimes qui le sont très peu. C'est vrai que l'Asie centrale bénéficie aussi là de deux immenses voisins qui sont infiniment moins regardants sur ces questions-là. En fait, les Russes et les Chinois voient même d'un bon œil le fait d'avoir des pouvoirs autoritaires dans cette région parce que c'est un gage de stabilité sur le plan politique sur le long terme. Au regard des enjeux économiques, du contexte géopolitique, de l'intérêt mutuel des Européens et des Centra-Asiatiques à travailler ensemble, je pense pas que les Européens vont se focaliser sur de tels points de contention. Je dis pas qu'il faille pas en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres sujets de dialogue et de coopération qui vaillent la peine qu'on les priorise par rapport à d'autres questions sur lesquelles malheureusement un certain nombre de dirigeants centra-asiatiques ne semblent pas prêts à lâcher du lest.
Michael Leviston, doctorant au Centre de recherche Europe-Eurasie à l'INALCO et cofondateur de l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie, il était interrogé par Anastasia Becchio. Enfin en football, après avoir remporté ses deux premiers matchs de poule de la Ligue des Nations, l'équipe de France féminine entend enchaîner ce soir face à la Suisse à l'occasion de la troisième journée. La rencontre se déroule à Saint-Gall. On écoute le sélectionneur tricolore Laurent Bonnaïdi.
Ça sera l'occasion de prendre les repères, de prendre connaissance des lieux et puis de s'imprégner du contexte. Donc c'est une bonne chose. Après, Il faut pas toujours avoir en tête qu'il y a l'euro. C'est vrai que c'est la compétition très importante de cette année 2025. Et il faudrait pas que les joueuses commencent à faire les matchs en avance et de se dire qu'on joue à Saint-Gall contre le Pays de Galles. Non, on joue contre la Suisse. Ça va être un match très difficile parce que la Suisse, c'est une équipe, déjà avec la coach qui a un sacré palmarès et qui fait progresser cette équipe. Une équipe rajeunie avec des gros potentiels. Donc, vraiment qu'on soit focalisé sur ce match. On est à Saint-Gall, c'est vrai, mais on n'est pas encore à l'euro.
Voilà, Suisse-France ce soir à 18h en temps universel. Très bonne journée sur RFI.